Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 742 du podcast Touchdown Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour continuer de parler NFL et de débriefer la Free Agency. Retour à une équipe de 3 personnes aujourd'hui et c'est complémentaire parce que c'est 2 personnes qu'on n'avait pas la semaine dernière. Donc on a une petite revue d'effectifs. Raphaël Masmejean est de retour, bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Retour depuis le Super Bowl, tiens, comment ça va?
Eh bien oui, depuis le Super Bowl, ça va, ça va. Petite vacances, on va dire ça comme ça, petite vacances podcastiques.
Bon, on s'est ressourcé, il s'est passé pas mal de choses pendant la Free Agency. En un mot, comment décrirais-tu cette Free Agency? Comment l'as-tu vécu?
Pour un demi-teinte, pas ultra passionnante, mais ça va, ça va.
Ok, Victor Roulier, bonjour.
Et bonjour Alain, bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Comment as-tu vécu la Free Agency de ton côté?
Eh bien, moi, je la trouve divertissante.
Ouais, je suis plutôt d'accord.
Heureusement que le poste de running back et de backup quarterback existe, mais j'ai trouvé... Non, mais disons qu'il y a eu plein de petits moments où je me suis dit « Oh merde !» Ah oui, quand même. Et, et du coup, c'est assez rigolo.
Pas eu des trucs monstrueux, mais il y a eu des pas mal de petits, en effet, petits moments intéressants. Les running backs, je suis désolé, par contre, Victor, on a déjà traité la semaine dernière. Je réfère les gens à l'émission avec Grégory Richard, qu'on salue. Aujourd'hui, on va parler de la valse des quarterbacks, quelques titulaires et pas mal d'interrogations, on va dire, et beaucoup de remplaçants. Le ménage chez les Chargers, la retraite d'Aaron Donald, qui est quand même aussi un des gros événements. C'est pas une signature, mais c'est un énorme événement. Et puis, les quelques grosses signatures, on va faire un peu de vrac à la fin. On va passer en revue les grosses signatures. Petit jingle et c'est parti.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence donc avec la valse des quarterbacks. On aurait pu appeler cette séquence de draft 2021-2022, quel désastre, parce que c'est surtout des quarterbacks de ces QV-là qui ont été concernés. Le premier, le plus gros événement probablement, c'est Justin Fields qui part de Chicago pour rejoindre Pittsburgh contre un choix du 6e tour seulement. Avant de parler de Fields, messieurs, je voulais quand même, parce que j'ai quand même l'impression que c'est l'information principale de ce transfert, c'est la réponse à une des questions qu'on avait posées dans notre émission qui commençait l'intersaison. On avait donné 6 grandes intrigues de l'intersaison, et une des intrigues, c'était que vont faire les Bears au poste de quarterback? Est-ce qu'ils prenaient un joueur avec le premier choix de la draft? Est-ce qu'ils gardaient Justin Fields? On a la réponse, ce sera donc un quarterback avec le premier choix de la draft. Je vais commencer par Victor, parce que tu connais mieux les quarterbacks de la draft. Est-ce que c'est un choix logique des Bears?
Écoute, est-ce que c'est un choix logique? Je dirais oui, au sens où Je pense que les équipes qui réussissent en NFL sont celles qui sont capables de reconnaître leurs erreurs et qui vont pas s'enfermer des années et des années et des années avec un Daniel Jones, par exemple. Exemple pris au hasard.
Petite balle perdue au passage.
Non, mais je trouve ça assez désolant. Là, ils ont le numéro 1, qui en plus n'était même pas à eux. Ils ont deux top 10, donc ils peuvent en plus choisir, entre guillemets, un meilleur ami du numéro 1 si besoin. Enfin, ils peuvent l'entourer. Quel que soit leur choix au poste de quarterback, ça me paraît bien de faire le ménage. Après, j'étais un peu chiffonné par la contrepartie. On pourra peut-être en reparler, même si ça reste du détail. Mais je trouve que le message est fort. Ils avaient envie de dire dès maintenant, le numéro 1 n'est pas à vendre et on va prendre un quarterback avec ça.
Oui, là, clairement, il n'est plus à vendre. Raphaël, tu es aussi d'accord de tourner la page Justin Fields ? Partons sur le dossier Fields, désormais.
Alors, on y reviendra peut-être après. Moi, je ne suis pas totalement persuadé qu'il n'y a aucun espoir pour Justin Fields sur l'avenir, mais... Je comprends la logique de Chicago qui en 3 ans n'a pas trouvé les solutions pour le faire progresser ou pour en obtenir ce que eux en espéraient. Mine de rien, ils avaient déjà échangé le premier choix l'an dernier que les Panthers avaient acquis. Deux années de suite avec le premier choix en NFL, quand t'es pas certain de ton quarterback, tu peux pas te permettre en fait de passer deux années de suite sur le choix numéro 1 quand t'as pas de certitude au poste de quarterback. Donc je comprends la volonté, le choix de dire ok, on tente autre chose. Là-dessus, ça me semble assez logique. Ouais.
Victor, Caleb Williams, du coup, pour faire un petit teasing de la draft, vous allez en reparler évidemment.
C'est le plus logique. Sur un plan personnel, je ne suis emballé par aucun quarterback cette année. Donc tu vas pas me voir les survendre, puisque je pense que dans un monde honnête, il n'y en aurait pas un seul dans le top 10. Et je dis ça alors que potentiellement il va y en avoir 4 dans les 4 premiers choix. Hein, mais
oui, ça peut aller vite en effet.
Mais,
si j'ai bien compris.
Mais bon, ça après la valeur du quarterback, etc. Écoute, Caleb Williams, on va dire que ça me paraît le choix le plus évident parce que s'il y a une chose qui est incontestable, c'est que c'est celui qui a le plus de potentiel.
Bon.
C'est peut-être aussi le potentiel bust, mais au moins c'est celui qui peut aller le plus haut.
Très bien. Et en tout cas, il arrivera avec Keenan Allen, DJ Moore, Cole Kmet. C'est quand même des bases qui ne sont pas vilaines, Raphaël, pour un jeune quarterback.
Non, il y a des cibles. Il y a une escouade de coureurs qui est complète aussi. Alors, même si on ne sait pas trop pourquoi ils ont rajouté d'André Swift, en tout cas, il y a du monde au poste de coureur pour égaler. La ligne offensive avait été un peu améliorée. Elle reste moyenne et je pense qu'il faut quand même continuer des efforts là-dessus. Mais globalement, dans sa partie de terrain, il n'arrive pas dans un champ de ruines, c'est clair.
Bon. Justin Fields, on revient sur lui. L'échec est quand même plutôt terrible. C'était un joueur qui avait été choisi en 11e position de la draft. 40 matchs, 38 fois titulaire, 60,3% de passes complétées, 40 touchdowns, 30 interceptions et 135 sacs encaissés en 40 matchs. Je donne la stat parce que dans la rédaction, Marc Orfina m'a dit qu'on ne donnait pas assez les stats de sacs cette semaine et il a raison. Est-ce qu'il a une chance de se relancer à Pittsburgh, Raphaël ?
Écoute, moi, j'ai envie d'y croire, et j'y crois un peu, pour être très, très honnête. Je pense que Pittsburgh est une franchise qui a suffisamment de solidité pour essayer de le remettre sur les bons rails, de le laisser un an, voire peut-être deux sur le banc, de réapprendre certaines choses, d'améliorer ses lectures, parce que c'est notamment sur sa première lecture, le gros défaut de son début de carrière, on va dire ça comme ça. Je pense que s'ils trouvent le bon coaching, ils ont une chance de relancer le joueur. En tout cas, honnêtement, un sixième tour, il risque pas grand-chose entre nous. Bon bah au pire, il le relance pas du tout, ça donne rien à l'entraînement et c'est pas grave, on aura tous oublié qu'ils ont mis un sixième tour dessus. Et au mieux, après Wilson, qui a l'air d'avoir quoi, un an, peut-être deux max dans les jambes. Tu tentes Fields avec peut-être un autre jeune quarterback, tu vois ce qui se passe, et si Fields a appris de ses erreurs sur le banc, pourquoi pas. Moi, j'ai envie d'y croire un peu, je pense que ça fait partie des franchises dans lesquelles il a une chance de se relancer parce que c'est une franchise solide et bien construite. Il aurait été envoyé chez les Panthers, je t'aurais dit sa carrière est finie. Voilà, je pense qu'il y a des franchises comme ça qui peuvent donner l'espoir à un joueur de se relancer. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir ? On verra.
Il a que 25 ans. Victor, je te voyais très dubitatif.
Oui, moi je crois pas beaucoup aux joueurs. Alors je suis totalement d'accord sur la partie que Pittsburgh ne mise quasiment rien et que autant tenter le coup. Là-dessus, côté Steelers, il n'y a pas de problème. Après, oui, je pense que c'est typiquement un joueur qui prend trop de sacs, qui ne sait pas gérer la poche. Alors quand j'ai dit ça il y a 2 ans, on m'a dit « Mais non, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de la ligne. » Même quand il a une ligne comme ça, c'est un peu syndrome Carson Wentz. Si vous regardez ligne de stade de Carson Wentz, il a fait 33-7 quasiment tous les ans pendant 5 ans. Sauf que il prenait 70 sacs et que ça faisait perdre de nombreux matchs. Et je pense qu'en fait, il y a des faiblesses qui sont structurelles chez Fields, qui sont la première lecture, qui sont les passes intermédiaires, qui sont la gestion de la poche. Et qu'il y a un moment, c'est trop tard. Si au bout de 3 ans, t'as réglé aucun de tes problèmes, ce serait miraculeux que tu règles tout d'un coup. Alors, le changement d'environnement peut aider, mais je reste dubitatif.
Je suis assez d'accord avec Victor, c'est que j'ai du mal à y croire après 3 ans, c'est-à-dire que je vois pas, j'ai pas vraiment vu de progrès. Alors je sais que ça a été mis à un moment, c'était la faute des coachs, après c'était la faute de la ligne, après c'était la faute des receveurs, après c'était à un moment c'était Luke Getsy est bien parce qu'il a trouvé à l'utiliser, et puis finalement non, Luke Getsy est pas bien, c'est de sa faute. Moi quand au bout de 3 ans, c'est à ce niveau-là, j'ai du mal à croire aussi. Je vous trouve assez optimiste quand même sur Pittsburgh, parce qu'on va reparler, mais ils avaient un jeune quarterback aussi, il s'est pas particulièrement bien développé et ils l'ont envoyé à Philadelphie, donc parce que les conditions pour réussir à Pittsburgh sont pas dingos non plus quoi en ce moment au niveau de la ligne offensive, ça va pas être mieux quoi.
Après on peut croire aussi que le quarterback qu'ils avaient était moins bon aussi.
C'est
pour ça aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, Kenny Pickett en 15 matchs, il est incapable de lancer plus de 10 touchdowns sur une saison. Donc on peut aussi croire que le cas Pickett est encore plus bas que le cas Fields aussi, tu vois, c'est ce qui fait qu'on peut peut-être croire un peu plus en Fields dans mon cas en tout cas.
Alors on va venir au cas Pickett juste derrière, mais je sens que Victor brûlait de donner un mot sur la compensation 6e tour. Problème de négociation du côté de Chicago si j'ai bien compris.
Oui, parce que moi je pense que les bonnes franchises sont celles qui maximisent la valeur de leurs joueurs et les mauvaises franchises sont celles qui les minimisent. Et par exemple, quand tu vois un Trey Lance qui n'a pas été bien meilleur que Fields et qui part pour un 4e tour sec.
Bah, il a pas beaucoup joué en même temps. Donc
oui, d'accord, mais il part pour un 4e tour sec. Quand tu vois Carson Wentz qui part pour un 1er et un 3e tour. Alors ok, Carson Wentz, il y avait une saison MVP, on pouvait rêver là-dessus si vous voulez. Mais
oui,
Rosen
Carson Wentz a beaucoup plus montré que
d'accord,
le Sam Fields.
Hein, mais Rosen qui part pour un second tour ou n'importe. Enfin, un 6e tour qui devient un 4e s'il joue 51% des snaps, sachant que 10 minutes après, Adam Schefter annonçait que c'était Russell Wilson le titulaire. Donc le 6e va rester un 6e, sauf
oui,
blessure.
Parce qu'il arrive clairement pour être numéro 2 derrière Russell Wilson, je ne l'ai pas dit, mais on est d'accord.
Du coup, un 6e, c'est dérisoire. Je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas eu mieux comme offre.
Alors, visiblement, la version, c'est qu'ils ont eu mieux comme offre, mais qu'ils voulaient aller à Pittsburgh, donc ils l'ont envoyé à Pittsburgh. Ça peut être aussi une version classe de voir les choses.
Ah, super, classe, mais tu gagneras pas. Voilà.
Ah bah,
ouais,
c'est ce que je t'ai dit quand on a discuté à l'écrit. On se plaint que les franchises soient trop méchantes, ensuite on se plaint que les franchises soient trop gentilles. On n'est jamais content.
Non, mais on saura jamais en vrai là sur ce truc là. C'est des paroles d'un camp, d'un autre, des échanges qu'on n'a pas, que ceux une franchise a avec un tel. Enfin, un Schefter, il rapporte aussi ce qu'on lui dit, hein. Donc
voilà, non, mais en plus. Mais
donc, bon.
Moi, la discussion qu'on a eue en privé, Victor, c'était est-ce que ça change grand-chose que ce soit 4 ou 6 de toute façon, vu que toi-même, t'as pas l'air d'y croire.
Bah oui, ça change.
Bah ça change quand même, 4e et 6e tour.
Ça change parce que, en fait, là où un 4e tour est important, c'est que c'est un excellent levier en général pour monter au 1er tour quand tu en as besoin. Et alors, je suis d'accord mais malgré tout, bah, c'est bien d'accumuler des armes. Et Chicago n'a que 4. Alors, ils ont le 1 et le 9, mais ils n'ont que 4 choix de draft.
Non, mais là, les gars, moi, je veux bien. Vous êtes dans vos discussions de comptable sur 4, c'est mieux que 6 pour faire 3 plus 4 pour monter à 2 ou machin.
Non, c'est même pas pour monter. 4, c'est mieux que 6. Enfin,
ça, je comprends très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette discussion sur 4, 6, machin et tout, on en oublierait presque l'essentiel qui est. Enfin, le fait qu'on se pose la question que s'il vaille mieux qu'un 4 ou un 6, ça prouve quand même que l'essentiel de cette info, c'est quand même que Justin Fields, c'est un quarterback dans lequel plus personne ne croit. Parce que si personne n'a mis plus qu'un 4 sur la table, ou un 6, ou machin, enfin, c'est quand même que c'est un mec qui était au premier tour il y a 2 ans et qu'il est, que c'est plus du tout un titulaire. Non, c'est ça l'info quand même.
Ça qu'il ait une très mauvaise cote à travers la ligue, ça paraît évident, effectivement, que beaucoup d'équipes ne croient pas en lui ou n'aient pas envie de miser particulièrement sur lui. Ça, je suis d'accord. En soi, c'est une info en soi. C'est certain, la vision qu'a la ligue de Justin Fields. Après, on s'interroge un peu sur le tempo de vente des Bears, quoi, qui a peut-être pas semblé le bon. Alors
oui,
après, est-ce qu'ils l'ont vraiment laissé partir pour l'équipe dans laquelle il voulait aller? Peut-être, on verra bien. Mais je comprends quand même l'idée, malgré tout, de se dire qu'il vaut mieux, un quatrième tour, c'est un peu mieux qu'un sixième. Ça me paraît pas non plus déconnant.
Disons que si, tout à l'heure, on disait s'il bust, on oubliera que les Steelers sont lâchés un sixième. Bah, s'il bust, on dira, bah, ils ont eu bien fait, en fait, de pas lâcher un quatre, quoi.
Oui. Non, mais de toute façon, Pittsburgh, quoi qu'il arrive, pour moi, ils sont gagnants dans cette équation. Hein. Il y a zéro perte.
Pour le coup, clairement. Pittsburgh, qui s'est aussi débarrassé de Desmond Ridder, j'ai sauté une ligne, de Kenny Pickett, envoyé à Philadelphie contre un choix du 3e tour, avec 2 échanges de choix du 7e tour, et Pickett arrive, lui, avec un choix du 4e tour avec lui. C'est-à-dire, c'est Pickett et 4e tour à Philadelphie, et Pittsburgh récupère 3e tour, et derrière, ils échangent des choix du 7e. On est d'accord.
Ils montent de 20 places à draft.
Oui, c'est ça, ils échangent leur choix du 7e tour. Bon, donc c'est pas non plus grand chose, parce que là on entend 3 et 4, mais c'est un échange. Donc est-ce que ça vaut mieux qu'un 6 sec? Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est quoi l'intérêt victoire pour Philadelphie?
Je ne sais pas. Écoute,
on est d'accord.
Écoute, je ne sais pas. On a un jeune rookie. Qui a le même style de jeu que Pickett, mais qui a fait d'excellents camps d'entraînement, une excellente pré-saison, qui s'appelle Tanner McKee. Quel intérêt de bloquer son développement sur un joueur qui a été littéralement incapable de faire la moindre stat ou d'être décisif depuis qu'il est en NFL, à part le fait que les quarterbacks du premier tour ont 1 million de chances, il n'y a pas d'explication rationnelle. Il est fan des Eagles à l'origine, c'est bien. Comme ça, il foutra pas la merde dans le vestiaire. Qu'est-ce que je dise? Pourtant, vous savez que je suis fan de cette équipe. Mais alors, littéralement, il n'y a pour moi aucune raison logique ou cohérente pour ce qui s'est passé. Voilà.
Bon, bah, ça c'est bien, c'est rassurant. Premier tour en 2022, 25 matchs, 24 fois titulaire, 62,6% de passes complétées et surtout 13 touchdowns pour 13 interceptions et 50 sacks en 25 matchs. 13 touchdowns, 13 interceptions, c'est quand même délirant. Raphaël, donc oui, on partage le constat, je pense qu'il n'y a pas un milliard de choses à dire. Il jouait mal dans le froid en Pennsylvanie, ils l'ont transféré dans le froid en Pennsylvanie.
On partage effectivement le constat, il a vraiment pas donné aucun signe de vrai potentiel à mon sens en à peu près deux saisons on va dire du côté de Pittsburgh. C'est vrai que le voir partir chez Philadelphie, j'ai pas compris, c'est vraiment j'ai pas compris pour les deux côtés. Pour le joueur, il va s'enterrer dans une franchise qui lui laissera aucune chance, enfin vraiment il y a aucune chance d'un rebond potentiel dans cette franchise. Et pour Philly, je vois même pas ce qui... Enfin bon, bref, rien compris, mais écoute, ça a fait plaisir à quelqu'un, visiblement. Voilà.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend, encore une fois, via, je sais plus si c'est ESPN ou NFL Media, qui dit qu'il a été envoyé hors de Pittsburgh parce qu'il s'est plaint de l'arrivée de Russell Wilson. Si c'est pour finir à Philadelphie derrière Jalen Hurts, je vois pas trop à quel moment il gagne au change, parce qu'il avait plus de chances de déloger Russell Wilson, a priori. Hein.
Non, mais les rumeurs, là encore... Toujours prendre avec des pincettes qui dit quoi, il y en a qui veulent faire des clics.
Oui, après, on a vu souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans plein de trucs. Hein. On nous a dit ça aussi quand il y avait des problèmes en interne chez les Patriots, chez les Seahawks, chez les machins.
Exactement.
Et à la fin, il y en avait. Donc,
un jour, on fera un podcast Remember.
Voilà, les mecs inventent pas des trucs. Hein, donc après, qui fait sortir l'info? Est-ce que c'est un agent? Est-ce que c'est le membre de telle ou telle équipe? Mais les confrères, ils n'inventent pas non plus. Donc, c'est plus ça qui est à voir. Après, encore une fois, c'est un move qui est un peu étrange parce qu'il ne correspond pas non plus vraiment au profil de jeu derrière Jalen Hurts. Ce serait pas un remplaçant qui correspond à ton quarterback d'origine. Donc, c'est un peu un move étonnant. Est-ce que ça signe le début d'une carrière de backup à vie, un peu, Raphaël?
Ça y ressemble. Ça peut. Le mec qui fait pas de bruit, qui prend le minimum vétéran et qui attend. Ça peut.
Est-ce que c'est un début de carrière de backup aussi pour Desmond Ridder? On y arrive, direction les Cardinals. Alors là, c'est un drôle d'échange puisque lui, c'est contre un receveur directement. Il n'y a pas eu de choix de draft. C'est Rondell Moore. Ridder, c'est 19 matchs avec les Falcons, 17 en tant que titulaire, 14 touchdowns, 12 interceptions, 40 sacks. Troisième tour de draft, donc c'est pas les mêmes enjeux hein, que les deux dont on a parlé avant. Pickett et Justin Fields, c'était des premiers tours. Ridder, c'était un troisième. Rondell Moore, donc en face, 40 réceptions, 352 yards, un touchdown. C'est assez rare hein, les échanges joueurs pour joueurs comme ça. Il avait à peu près le même rendement les deux saisons d'avant, Rondell Moore. Est-ce que c'est fini Desmond Ridder, Victor?
Fini en tant que titulaire, oui. Après, en tant que remplaçant de Kyler Murray, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine continuité dans le schéma tactique. Je peux comprendre, je ne suis pas choqué. Autant je pense qu'il n'a pas la carrure d'un titulaire, autant je pense que c'est un backup correct et qui, sur un plan tactique, fait sens.
Backup correct qui fait sens sur le plan tactique, Raphaël?
Oui, je vois un peu plus de similarité, par exemple, entre lui et un Kyler Murray qu'entre un Pickett et un Jalen Hurts, même s'il y a des différences à chaque fois entre chacun de ses quarterbacks. Mais à la limite, je vois un peu plus un Desmond Ridder pouvoir se fondre dans le plan de jeu, dans le cahier de jeu déjà établi du côté de l'Arizona. Mine de rien, en tout cas pour moi ça fait aussi un peu plus de sens parce que Kyler Murray a aussi un âge un peu plus avancé que Jalen Hurts et peut-être qu'un jour Arizona aura besoin de tourner la page et d'avoir un mec en attendant sur 6-7 matchs en attendant qu'un rookie reprenne à nouveau le... enfin voilà. Bref, pourquoi pas, plus de sens en tout cas.
Très bien, je reviens au premier tour. Mac Jones a été envoyé aux Jaguars, on n'en avait pas parlé dans l'émission précédente donc je le remets dans notre petite danse des quarterbacks. Lui aussi c'est un premier tour, lui aussi c'est un top 15, il était 15, non, avec les
15, ouais.
Patriots. Je l'ai plus sous les yeux.
Ouais, mais...
donc là aussi, énorme constat d'échec, parce qu'au moins, a priori, il ne va pas pour déloger Trevor Lawrence, hein, Raphaël.
Non, a priori, il ne va pas pour ça, ou alors vraiment tremblement de terre du côté de, du côté de Jacksonville, et Trevor Lawrence n'est vraiment pas celui qui était annoncé, s'il se fait déloger par Mac Jones. Mais non, il part lui aussi pour tenter de gagner une place de numéro 2 assurée en NFL.
C'est vraiment une drôle de draft. Hein. Trevor Lawrence, c'était un justement, donc ils étaient de la même QV en plus. Je rappelle juste quand même, on est sur la draft 2011 hein, avec Mac Jones. Zach Wilson en 2, Trey Lance en 3, Justin Fields en 11, Mac Jones en 15. Je regarde s'il y avait un autre. Non, il n'y avait pas d'autres quarterback au premier tour. C'est quand même un constat d'échec qui est terrible pour Justin Fields, pour Kenny Pickett après de la QV 2012, pour tous ces joueurs-là. C'est quand même... Victor, toi qui es plus expert draft, c'est quand même deux QV qui ont floppé assez méchamment. Parce que même Trevor Lawrence, qui devait être l'élu, pour l'instant, on est toujours un peu en stand-by aussi. Hein.
Ouais, alors c'est 2021, pas 2011. Mais
oui.
Je dirais que. Il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que Kenny Pickett, il est choisi en 20. Et Desmond Ridder, qui est deuxième quarterback de cette draft-là, est choisi en 70 ou 73. Donc on va dire que de base, quand tu prends pas un seul quarterback dans les 19 premiers choix, c'est que déjà, tu n'avais pas une espérance incroyable. Par contre, oui, là, c'était le quintet qui devait révolutionner la NFL. Tu as égrené les noms. Il y en a quatre qui ont déjà plus d'avenir en NFL. Et tu en as un qui vivote, dont on avait des espoirs cette année, mais qui a un peu plafonné, qui est Trevor Lawrence. Bah oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est sûr. Et il y a des profils plus étonnants que d'autres. C'est-à-dire que Zach Wilson et Trey Lance soient des risques énormes, je pense qu'on était tous conscients. Mac Jones et Justin Fields devaient représenter un peu plus des sûretés. Ça n'a pas été le cas, clairement. Et Mac Jones, bah, puisque tu aimes bien les rumeurs, il y a aussi plein de rumeurs qui disent que Mac Jones était un cancer dans le vestiaire des Patriots, etc. Bon.
S'il a été envoyé à Jacksonville, il y a peut-être un fond de vrai aussi. Hein.
Par contre... Ouais, petit aparté, mais va falloir faire attention au NFL parce que si t'arrives pas à avoir un bon quarterback par draft, on va vite se retrouver dans 5-6 ans avec un petit problème en niveau de jeu au niveau du poste de quarterback. Hein, ça va
après, il y a des petits creux des fois. Alors, du coup, comme j'ai fait un lapsus, je suis allé vérifier. Tu veux la QV 2011, Victor? Parce que franchement, on n'est pas loin du même délire. Cam Newton en 1.
Ouais,
ok.
Oh, MVP.
Attends. Jack Locker en 8. Mm-hmm. Blaine Gabbert en 10. Christian Ponder en 12.
Ouais.
On est à peu près sur le même délire hein, dans le top 15. Hein.
Oui, c'est...
grand Christian Ponder.
Ah, le grand Christian Ponder, qui avait été un petit espoir pendant quelques matchs hein, du côté de... Je regarde, attends, j'en vois pas d'autres des quarterbacks de cette année-là. Il y a Ryan Mallett au troisième tour. Et puis voilà. Bon, on va faire un tout petit tour de ce qui reste, messieurs, les backups notamment. Je vous donne toute la liste de ce qui s'est passé. Et puis, vous me dites s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Gardner Minshew aux Raiders, Jameis Winston et Tyler Huntley aux Browns, tous les deux. Joe Flacco aux Colts, Jimmy Garoppolo aux Rams, Sam Darnold aux Vikings. Kings, Jacoby Brissett aux Patriots, Drew Lock aux Giants, Tyrod Taylor aux Jets, Sam Howell aux Seahawks et Marcus Mariota chez les Commanders.
Je m'arrête, non pas qu'il m'intéresse particulièrement, mais Sam Howell c'est aussi assez significatif, hein, jeune quarterback très vite bazardé.
C'est vrai.
Par son équipe, enfin voilà, c'est dans la même mouvance, je trouve. Il serait presque à mettre dans la case des Fields, etc. Alors bien sûr qu'il est pris beaucoup plus tard à la draft, mais ce que je veux dire, c'est un jeune quarterback à qui on a confié les rênes de l'équipe et très rapidement l'équipe qui a fait ça l'a bazardé, quoi.
Ce qui est selon moi incompréhensible, hein, parce que il a plus montré que Fields, Jones, Zach Wilson et Trey Lance réunis. Il a pas été parfait, certes. Il sera peut-être jamais un grand titulaire, mais il avait quand même montré de belles choses. Je vois pas très bien. Alors oui, Washington va certainement prendre un quarterback à la draft, j'entends, mais le bazarder comme ça, je vois pas trop intérêt non plus.
Après, il a que 23 ans, Geno Smith en a 33.
Ah non, mais pour les Seahawks, je vois l'intérêt.
Pour les Seahawks,
c'est pour Washington que je comprends pas.
Ouais. Bon, ouais, Tyrod Taylor aux Jets, ils ont un backup compétent cette année pour Aaron Rodgers. Ils ont toujours Zach Wilson, hein, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser pour l'instant. Drew Lock, apparemment, il a été prévenu qu'il serait numéro 2 derrière Daniel Jones, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de bataille. Jacoby Brissett, il vient faire du babysitting pour les Patriots. Sam Darnold, c'est peut-être en attendant pour les Vikings. Jimmy Garoppolo, c'est backup. Joe Flacco, ça va être babysitter aussi pour Anthony Richardson. Et, deux bons backups aux Browns, hein, finalement. Eux, pour le coup, ils ont blindé. Hein. Non
bon. Oui, oui.
Gardner Minshew, c'est titulaire aux Raiders?
À court terme, oui. Après, ça dépend s'ils prennent un quarterback à la draft.
Très bien. On passe à notre deuxième sujet, messieurs. C'est Aaron Donald qui prend sa retraite. On le sentait venir peut-être depuis 2-3 ans quand même. Il flirtait avec, notamment depuis le titre. Il prend sa retraite à 32 ans, 111 sacks en 154 matchs de saison régulière avec les Rams, 5 participations au playoff, un Super Bowl perdu, puis un Super Bowl gagné. C'était en février 2022 contre les Bengals. Est-ce que c'est le meilleur defensive tackle de l'histoire de la NFL, Raphaël? Bim, comme ça.
Ouais, je pense, oui. Defensive tackle, j'aurais tendance à dire oui. Peut-être. En tout cas, s'il n'est pas premier, il est un bis. Il est un bis. C'est un joueur absolument historique. Son nombre de sélections All-Pro le prouve. L'ensemble. Il a à la fois la production en termes statistiques, la production en termes d'action décisive à des moments importants. Il a quand même, alors peut-être pas révolutionné le poste de defensive tackle, exagérons pas, j'ai toujours un peu de mal avec les idées de révolution, mais n'empêche que il a été sur les 10 dernières années, il a amené une nouvelle, il a amené le poste de defensive tackle comme une nouvelle arme dans le pass rush, en tout cas quelque chose qu'on voyait beaucoup moins avant lui. Et c'est vrai que maintenant la tendance c'est d'essayer de trouver ça aussi sur la ligne défensive. Donc oui, c'est un joueur qui a fait date et qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps, et on a eu de la chance de le voir évoluer pour une bonne partie du coup de nos auditeurs et d'entre nous en direct.
Victor, qu'est-ce qu'on retient de d'Aaron Donald?
C'est un top 5 défenseur de l'histoire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je l'ai dit dans un tweet. Alors après, c'est toujours difficile parce que forcément, on les a pas tous vus en direct. Mais à part Reggie White, Lawrence Taylor et Deacon Jones. Je vois pas tellement qui est à son niveau. Quand tu dis un bis, tu penses peut-être à Minjo Green, mais bon, voilà, on est dans le haut du panier. C'est le meilleur défenseur qu'on ait vu de notre vivant. Je pense que ça, par contre, c'est un peu. Alors, il y a le pic de J.J. Watt, mais le problème, c'est que sur la durée, bon, voilà, J.J. Watt, malheureusement, on sait que sa deuxième partie de carrière a été plus compliquée. Donald, ça a été on n'avait jamais vu un tel pass rusher au milieu du terrain. Et il y a toutes ces saisons où littéralement, il est double team, c'est-à-dire qu'il y a deux joueurs sur lui 80% du temps, et pourtant, il fait deux fois plus de pression que n'importe quel autre être humain. C'est un extraterrestre. c'est un extraterrestre et ça restera un des joueurs qui a bouleversé cette époque. Il part avec sa bague, tant mieux. On a vu tellement de géants partir sans bague. Il part avec sa bague. Non, respect éternel pour un joueur. C'est impossible de pas l'aimer, en fait. C'est, si vous aimez le football, vous aimez Aaron Donald, quoi. C'est pas possible.
En pression depuis le milieu de la ligne, il y a eu Warren Sapp qui a eu une saison à 16,5 au niveau des sacs, mais il n'a pas eu la régularité qu'a eu Aaron Donald. Hein.
Tu me permets, mais Warren Sapp, c'était en plus dans une défense où il y avait un nombre de menaces incroyables autour de lui qui ouvraient des brèches. Alors que chez les Rams, c'est Donald qui ouvrait les brèches pour les autres en plus.
Je ne pense pas que Warren Sapp était double-teamé 60 ou 70% du temps.
C'est vrai. Bon, je vous donne les éléments.
Non, mais oui, tu as raison.
Alors, il part quand même relativement tôt à l'échelle des retraites récentes. Il a 32 ans. Il part en étant All-Pro, en ayant 8 sacs pour sa dernière saison. Est-ce que c'est le départ idéal quand même? Il part pas au sommet, parce qu'il aurait pu partir au moment du titre. D'ailleurs, il y a eu quelques discussions. Mais il part quand même. On aura un très bon souvenir de lui, Raphaël.
Oui. Il part vraiment à un super moment où le déclin ne se fait pas ressentir. Après, je trouve, en vrai, l'avantage de son poste aussi de defensive tackle, c'est que le déclin est moins visible, on va dire. C'est qu'il aurait enchaîné 2-3 saisons à 2-3 sacs. Tout le monde serait dit oui, mais c'est un defensive tackle vétéran, machin. C'est pas comme un quarterback où le déclin peut arriver de manière très visuelle et tu t'en rends compte à la Peyton Manning où tu dis oulalalalala. Bon, Aaron Donald, tu l'aurais vu faire moins de sacs et t'aurais dit oui, bon bah voilà. Enfin, donc, en termes d'impact, je pense que ça aurait pas été très grave. Peut-être ce qui est un peu dur, c'est pour les supporters des Rams parce que l'intersaison était pas trop mal. Et bon, bah finalement, tu perds Aaron Donald à ce moment-là où l'intersaison est intéressante, où l'équipe était bien revenue l'an dernier à la surprise générale. Bon, pour eux, c'est un peu dur, mais pour Donald, je veux dire, après tant de bons et loyaux services, ok, enfin, merci champion, et voilà. Enfin.
Victor, est-ce que la défense des Rams, en l'occurrence, va être catastrophique en 2024, je vais loin, mais c'est vrai qu'ils avaient repris l'espoir, ils avaient bien joué l'an dernier, ils vont en playoff, ils sont plutôt pas mal.
Non, ils ont une bonne base, ils ont eu des rookies qui ont très bien performé, dont on peut espérer qu'ils continuent leur développement, Kobe Turner, mais pas que, ils ont des leaders, ils ont fait 2-3 recrutements sympathiques en free agency. Non, je pense qu'ils sont dans une belle position, ils sont en train d'opérer une belle reconstruction, surtout défensive. Après, c'est vrai que là, bon, c'est un trou à combler qui n'était pas forcément prévu. Ça, c'est sûr. Oui. Mais ça affaiblit la défense. Mais je ne pense pas que la défense soit catastrophique du tout.
Bon, très bien. Il y a donc de l'espoir pour les Rams. On passe de l'autre côté du stade de Los Angeles après un petit jingle.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Le grand ménage du côté des Chargers. On avait un peu parlé aussi de cette équipe-là pendant nos grands points à suivre de l'intersaison. C'était avec Lucas Vola, si je me rappelle bien. Et on se demandait un peu comment ça allait se passer avec Jim Harbaugh. Ça va se passer sans Mike Williams, sans Keenan Allen. Le chantier des Chargers, donc, qui était une de nos grandes intrigues. Est-ce que c'est un grand ménage? Parce que Raphaël, c'est toi qui as suggéré d'ailleurs un peu ça quand on préparait l'émission. Je me rappelle, tu avais marqué grand ménage. En préparant, je me suis dit, c'est pas un si gros ménage que ça, non?
Alors, c'est quand même un gros ménage dans le sens où tu avais 4 joueurs qui utilisaient quasiment 50-51% de ta masse salariale de mémoire, qui étaient Mike Williams, Keenan Allen, Bosa et Mac. Et au final, sur les 4, pour le moment, t'en as plus que 2. Donc, t'as quand même 50% de tes 50% de masse salariale que tu vires. Tu vires quand même Keenan Allen qui était qui est depuis Philip Rivers, qui était la plus grande légende de ta franchise et qui va rester une légende de cette franchise, parce que vu les stats accumulées et les réceptions et tout ce qu'il a apporté, je trouve que ne serait-ce virer un joueur de la trempe de Keenan Allen qui sortait quasiment de sa meilleure saison en plus, ça reste un ménage qui pour moi est passe dans la catégorie grand ménage. Mais après, bon, on peut,
ouais,
on
mais là c'est le moment où Victor il va te dire que les franchises doivent être impitoyables si elles veulent gagner. Donc Victor, t'es content de ces moves?
C'est la franchise la plus mal gérée de la NFL.
C'est-à-dire ah bah non, que... faudrait savoir.
Non mais alors, non mais là ils ne font que payer leur incompétence. C'est-à-dire que littéralement, si je me rappelle bien du graphique, hors quarterback évidemment, les quatre joueurs, dans les cinq joueurs pardon, hors quarterback qui avaient le plus gros impact sur le cap space cette saison, il y avait quatre Chargers et Aaron Donald. Bon, Aaron Donald qui s'en va. Les quatre Chargers, c'est quoi? C'est Keenan Allen et Mike Williams dont on se sépare alors qu'ils sont encore performants, et c'est Bosa et Mac que tu restructures alors qu'ils sont cramés. Et donc, quand tu restructures, attention, hein, t'économises pas d'argent, tu le déplaces sur l'année d'après. Donc, non seulement ils sont tellement mal gérés qu'ils ont foutu en l'air cette saison, mais en plus de corriger leur connerie en le faisant mal en plus, ils sont en train de se bousiller la saison prochaine. Je trouve que cette... Je suis désolé. Quand les quatre joueurs non quarterback, les mieux payés d'Alix sont dans la même équipe, c'est juste que tu sais pas gérer un cap space et que tu sais pas gérer une franchise. Ça n'arrive jamais à part à eux. Je pense qu'ils... Là, ils arrivent dans deux ou trois ans d'enfer qui sont les conséquences d'une gestion catastrophique. Trader Herbert, hein, parce que j'ai pas envie qu'ils voient ça pendant trois ans. Hein. Franchement, c'est terrible.
Là, je sens qu'on a énervé le comptable.
Non, mais attends, il a, ne serait-ce que cette saison, tu as 10% de ton cap space, c'est J.C. Jackson. Pour l'année prochaine, je te parle. Non, mais il y a un moment, c'est bon, quoi.
Mais moi je donne globalement raison à Victor. Moi en fait, ils étaient obligés de faire de changer quelque chose, parce qu'ils pouvaient pas rester dans la situation avec quatre joueurs qui prennent autant. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, le sens de ce ménage, c'est pareil, je le comprends pas. Alors, Mac Williams, je peux l'entendre, beaucoup de blessures, machin. Mais moi, j'ai du mal à croire que pour les Chargers, avec Justin Herbert, avec un nouveau coaching, il soit plus intéressant de virer Keenan Allen et de garder Bosa et Mac qui vont devoir s'intégrer à un nouveau système défensif, à un nouveau coordinateur défensif. Alors, c'est pareil pour Keenan Allen, sauf que je pense que pour un receveur de la trempe et de l'expérience de Keenan Allen, c'est un poil plus simple de s'ajuster qu'un Bosa qui en plus est sur courant alternatif depuis pas mal de temps. Et moi en fait c'est ça qui me gêne, c'est pourquoi tu ne coupes pas Bosa, pourquoi tu ne coupes pas Mac pour garder Keenan Allen. Et c'est là où ça m'inquiète, c'est parce que les Chargers sont quand même devenus le pire effectif en termes de receveurs de la ligue. Là, je veux dire, regarde leur groupe de receveurs, dis-moi à qui ils sont censés lancer la balle l'an prochain. Quentin Johnson qui nous a rassuré en tant que rookie l'an dernier.
Joshua Palmer, non, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, il y a toujours Rashawn Slater, Justin Herbert, Derwin James, Joey Bosa. Allez, on va dire, bon, une sorte d'ossature comme ça. Et surtout, bon, je parle en présence d'un spécialiste draft, mais oui, Keenan Allen, bon, après, il a 32 ans, pour un receveur, ça peut être le moment où.
Regarde la
saison, pas pour un receveur, donc. Sachant que Keenan Allen, ça a toujours été un route
laisse-moi
runner.
Finir, Victor, laisse-moi finir des phrases, s'il te plaît.
Je veux casser du Chargers. Vas-y, dis-moi.
Non, mais laisse-moi finir des phrases. Et j'allais dire, Mike Williams, l'an dernier, il joue 3 matchs. Mike Williams, voilà. Et surtout, on a vu une franchise il y a quelques années, envoyer Stephon Diggs chez les Bills, on a dit, les Vikings, ils n'ont plus de receveurs. À la draft suivante, ils ont trouvé Justin Jefferson, et plus personne n'a jamais parlé de Stephon Diggs là-bas. Donc je me dis que sur un coup de bol, ils peuvent peut-être trouver un ou deux receveurs compétents dans la draft. Ce ne sera pas au niveau de ce qu'ils avaient, mais ils ont Justin Herbert, ils ont des nouveaux coachs offensifs, ils arrivent à en faire quelque chose, etc. Je me fais l'avocat du diable, mais... Il y a bien un moment où il fallait en effet qu'ils déblayent. Ils ont le cinquième choix de la draft. Donc, il y a l'air. Tu me disais, s'il y a quatre quarterbacks qui sont choisis aux quatre premières places et qui récupèrent Marvin Harrison Jr., par exemple, est-ce que, voilà, T'étais pas aussi sur une logique de renouvellement.
J'entends. Après, Stephen Diggs, il était parti pour un premier, un quatrième et je sais pas quoi. Là, il se sépare de Williams et de Keenan Allen.
Je te reparle pas des contreparties, je te reparle de ce qu'il y a sur le terrain. Bah, parlons de ce qu'il y a sur le terrain. Des fois, moi, j'en ai marre de parler des contreparties et du pognon.
Oui, mais pour le moment, du coup, sur le terrain, il y a rien.
Mais oui, mais parce que tu dis, ils ont pris Justin Jefferson, mais parce qu'ils avaient récupéré un premier tour. Il y a un moment.
Mais là, je te parle du, là, je te parle du cinquième choix qu'ils ont.
Mais moi, je pense que oui. Ils vont être en mesure de sachant que les trois meilleurs joueurs de cette draft sont probablement trois receveurs, ils vont être en mesure d'en avoir un des trois. Ok, pas de problème. Harrison, Nabers et Odunze, pour ceux qui se demandent. Ils en auront un des trois. Tant mieux. Ok. Ça ne va régler qu'un seul de leurs problèmes. La défense va rester un chantier énorme à toutes les lignes.
En fait, tu te rajoutes un problème que tu n'avais pas.
Non, mais après, du coup, je dis pas qu'ils vont gagner cette année, mais voilà, il faut bien qu'ils reconstruisent en partant de quelque part. Donc, s'ils ont Herbert et un receveur top talent, derrière, ils continuent d'écrémer et ils en ont pour 3 ans de reconstruction.
Dans ce cas-là, il fallait couper tout le monde. Et comme ça, tu perdais l'argent sur cette année et tu recommençais à zéro en 2025.
Attention, hein, dit comme ça, moi, je comprends pas non plus pour Bossa et
dans ce cas-là, va jusqu'au bout de l'idée tu l'assumes.
Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est l'entre-deux qui me dérange, en fait. Je comprends pas trop l'entre-deux. Je suis comme vous, hein. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Je comprends pas trop l'entre-deux non plus. Mais je me dis qu'en relançant, peut-être qu'ils se font confiance offensivement et en se disant, on peut repartir avec moins de talent offensif.
Quand Greg Roman va choisir un coureur au poste de numéro 5, on va tous rigoler.
C'est
hein.
Ça. Ah bah, ça, quand il y aura 45 courses pour 15 passes et que Justin Herbert sera 11 sur 15 pour 95 yards, payé 50 millions, on va rigoler. Hein. Regardez les vidéos de Michigan, hein, si vous avez envie, vous allez voir, c'est divertissant.
Bon, après, comparaison n'est pas raison.
Non, mais évidemment, je provoque un peu.
Mais oui, non, mais on n'est pas fan.
À une époque, dans l'imaginaire collectif, Jim Harbaugh, c'était le mec qui avait relancé Alex Smith et qui savait faire des trucs avec des quarterbacks aussi.
Ouais.
Donc,
je sais pas.
Voilà. Ils avaient fait jouer Kaepernick correctement, etc. etc. J'essaie d'être positif. Bon, donc je vous sens pas confiant. On va finir là-dessus.
Non.
Très bien. Allez, en vrac, on termine avec les grosses signatures. Les Vikings récupèrent. Alors, c'est pas une grosse signature, c'est un échange pour le coup. Les Vikings récupèrent le 23e choix de la draft 2024. Il appartenait aux Texans, ce choix. L'échange, c'est Vikings prend 23e choix de la draft et un choix du 7e tour. Houston reçoit deux choix du second tour et un choix du 6e tour. Est-ce que Minnesota se prépare pour monter et choisir un quarterback? Victor fait oui de la tête.
Oui, ça s'appelle une Carson Wentz. Les Eagles avaient fait pareil, c'est-à-dire que tu essayes d'accumuler deux premiers tours, sachant que il faut que ton premier soit entre 8 et 12, quoi, pour pouvoir monter à 3, être réactif et pouvoir monter à 3 ou à 4 selon qui te laisse monter. Ça pue l'arrivée dans le top 5 pour un quarterback, oui. Oui.
J'aime bien quand les experts draft sont ultra sûrs d'eux comme ça, alors qu'ils vont prendre un centre en 23e position.
Totalement possible. Je dis juste que moi,
ça y ressemble.
Bon, très bien, ça y ressemble. On va rester là-dessus. Les signatures. Calvin Ridley, 4 ans, 92 millions, dont 50 millions garantis pour aller aux Titans. Il l'a dit lui-même, hein, grosso modo. Bah, j'ai bien aimé le pognon, quoi.
Oui, ça c'est honnête de sa part. On peut pas lui enlever. Après. Alors, moi, j'aime bien Calvin Ridley comme receveur. Je suis plutôt un client du receveur, je dois avouer. Mais je suis un peu dubitatif sur des Titans qui, à l'époque, ont décidé de pas donner de gros contrats à AJ Brown et l'ont tradé pour ça, pour derrière filer sans patate à Calvin Ridley.
Oui.
Alors, c'est pas le même coach. Donc, le nouveau coach a peut-être une autre philosophie et c'est pour ça que lui, il est prêt à faire ça. Mais je trouve ça étonnant. Voilà.
Les gens changent, ils évoluent. Peut-être
qu'ils
ont appris
coach,
de l'erreur.
Le nouveau coach, s'il avait déjà marché, ils étaient Higgins. Hein.
Ouais, non, mais voilà, je pense que c'est l'impact, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà.
Moi, j'avoue que je trouve ça un peu cher. Non, il a 29 ans, il sort d'une saison à 1 milliard, mais il a 29 ans quand même.
Le cap est à 220 millions, il va prendre 20% tous les ans avec le nouveau truc. 50 millions garantis, c'est plus autant qu'on le pense.
C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est que dalle, 50 millions. Ouais. On
s'embête
comme ça.
On s'en
mêle
pour rien.
C'est rien du tout. Daniel Hunter au Texan, 2 ans et 49 millions, donc pas grand-chose, hein, selon Victor Roulier. Quasiment intégralement garanti, 16 sacs et demi la saison dernière. Là, par contre, sans rire, les Texans affichent leurs ambitions, mine de rien, avec cette free agency aussi. Raphaël.
Oui, ils affichent leurs ambitions. Ils ont été une des équipes surprises l'an dernier. Ils ont réussi à aller en play-off malgré un quarterback, grâce à un quarterback rookie. Donc l'idée, c'est de continuer. C'est de continuer à renforcer l'équipe pour ne pas perdre la bonne dynamique de l'an dernier. Et franchement, je trouve qu'en défense, le coup Daniel Hunter, c'est super. Il leur manquait un vrai pass rusher comme ça. Moi, je suis très très client de cette signature.
Ouais. Victor, client aussi.
Est-ce que tu veux que je te spoil la fin d'émission ou est-ce que j'attends un peu?
Ah, très bien, je vais avancer alors, je crois savoir de quoi tu parles. En parlant d'affirmer ses ambitions, Marquise Brown, 1 an et 11 millions aux Chiefs, est-ce que c'est terrifiant pour le reste de la ligue, Raphaël?
Terrifiant, je sais pas, exagérons peut-être pas, mais en tout cas, c'est vraiment un joli coup de la part des Chiefs. Marquise Brown vient remplacer Valdez-Scantling qui a priori va pas signer du côté des Chiefs. Voilà, tu remplaces avec un joueur qui a peut-être même un peu plus de potentiel, je trouve, qui va pouvoir être mieux utilisé qu'à Arizona. Voilà, c'est un receveur pas cher et qui, en fait, a même pas besoin d'être le numéro 1 dans le sens où tu as encore Kelsey et Rashee Rice qui est censé devenir le numéro 1. Donc, enfin, encore un joli coup des Chiefs, quoi.
C'est un joueur qui a 709 yards la saison dernière, donc c'est vrai qu'il est un peu à la relance, Victor.
Oui, mais globalement, c'est, si tu veux, alors il y a toujours ce fantasme. Dès qu'il y a une fusée qui arrive à Kansas City, moi j'ai toujours l'impression qu'elle va faire 1500 yards. Hein, c'est on va appeler ça le post-traumatique Tyreek Hill. Sans rire, oui, je pense que c'est une bonne acquisition. Il manquerait plus qu'il signe Mike Williams pour 4 millions et puis on est tous morts. Mais écoute, c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient, donc oui, très bien.
Très bien. Pour les Chiefs, c'est vrai que ça peut être pas mal avec Rashee Rice et Travis Kelce, c'est plutôt sympathique. DJ Reed aux Lions, Arik Armstead aux Jaguars, la même idée là, c'est de renforcer des équipes qui sont déjà solides. Raphaël?
Oui, c'est ça. Je trouve particulièrement le coup de DJ Reader, moi, sur la ligne défensive des Lions, je trouve très très intéressant. On l'a vu, hein, DJ Reader a toujours été un joueur extrêmement solide partout où il est passé. C'est une valeur sûre de la ligue. Je pense que pour cette équipe des Lions, c'est exactement ce qu'il fallait vu le profil. Armstead, je suis un peu moins fan, mais Jacksonville avait quand même besoin de se renforcer. Donc bon, globalement, c'est deux coups intéressants. Hein.
Victor, oui, convaincu aussi.
Oui, convaincu aussi.
Très bien, on termine avec ce que Victor évoquait, c'est les vainqueurs de la Free Agency. Je vous avais demandé de préparer chacun un vainqueur, un perdant. Vous pouvez en avoir un, plusieurs, comme vous le sentez. C'était juste histoire de mettre un petit peu en valeur des choses dont on n'aurait pas forcément eu le temps de parler dans ces émissions. Victor, donc ton grand vainqueur, visiblement, ça a l'air d'être...
Houston.
Très bien, pourquoi ?
Écoute, il y a un risque, parfois, c'est de dépenser comme des fous en disant « On a eu une année de Stroud, vous avez vu, il est extraordinaire, on va tout gagner, on va tout dépenser. » Pas du tout. Ils ont re-signé Dalton Schultz. Même pas top 10 des salaires, ils le re-signent sur 3 ans, parfait. Ils vont choisir des Al-Shaïr, ils vont choisir des Denico Autry. Donc des joueurs très solides, achetés à des prix raisonnables sur des durées qui sont pas folles. Et la seule grosse dépense qu'ils font, c'est Daniel Hunter sur une durée de 2 ans. Donc si jamais ça plante, ils sont pas non plus intoxiqués pendant 5 ans avec un contrat pourri. Un joueur qui, on n'en a pas parlé l'année dernière, mais il a encore fait ses stats, il a encore été super bon. Joueur qui en plus sera un mentor incroyable pour Will Anderson. Et ils ont du cap, donc c'est pas grave de lui filer beaucoup sur 2 ans. Donc globalement, je trouve que cette équipe, ils ont dit ok, on va continuer à se construire intelligemment, coup par coup, vraiment faire un effectif cohérent de A à Z, et allez, on rajoute une petite cerise sur le gâteau, on se fait un petit plaisir parce qu'on a eu notre bonus, on se fait un petit plaisir, on s'achète notre nouveau jouet, il s'appelle Danny Hunter. C'est génial, j'adore la direction que prend cette franchise.
Raphaël, t'as l'air totalement d'accord.
Non, totalement d'accord. On avait échangé en secret avec Victor avant l'émission pour pas donner le même, mais j'aurais pas été loin de donner celui-là aussi. Je suis complètement fan de la direction. Je trouve que c'est des ajouts intelligents, sans grand risque. Ils récupèrent en plus de choix et d'assets à la draft pour refaire quelque chose avec l'échange contre les Vikings. Enfin, franchement, s'il y a pas de catastrophe, CJ Stroud. Je veux dire, c'est quand même une franchise qui est sur des rails très très solides, donc sans problème pour les nommer dans les vainqueurs.
Très bien. T'avais qui d'autre du coup si vous n'avez pas les mêmes?
Bah écoute, moi j'ai les Falcons. Alors je sais que vous en avez un peu parlé dans la première émission, mais néanmoins pour moi ça fait partie des vainqueurs parce que quand tu passes, quand tu améliores la position de quarterback qui est la position la plus importante de la ligue et que tu passes d'un Desmond Ridder à Kirk Cousins qui avant sa blessure l'an dernier était très très largement top 10 quarterback, voire même bien au-dessus de top 10 à mon sens. Bon, bah c'est une équipe qui potentiellement l'an prochain démarre avec un top 10 quarterback alors qu'elle n'en avait pas. Pour moi, rien que ça, ça te fait toi vainqueur de la free agency. Il y a zéro débat. Et je trouve que l'ajout d'un Darnell Mooney, qui a un receveur très bon sur la profondeur, avec un Kirk Cousins capable de viser la profondeur, ce que n'avait pas Atlanta, ça ouvre le cahier de jeu. Enfin bon, bref, totalement fan.
Très bien, passons au perdant, Victor.
Eh bien, les Dallas Cowboys. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même une course à l'armement. En NFC actuellement, il y a des Niners qui se sont renforcés très intelligemment. Il y a des Eagles qui ont fait venir Saquon Barkley, qui ont fait venir quand même des joueurs un peu flashy. Même les Lions, on en parlait juste avant avec Reader, etc. Donc tout le monde se renforce et Dallas ne fait rien. Ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont perdu Smith tackle. Ils ont perdu Bayadash centre. Ils ont perdu Gallup. Ils ont perdu beaucoup de joueurs et globalement, ils ont re-signé un long snapper, re-signé le cornerback Jordan Lewis, ils ont signé Eric Kendring, ce linebacker, pour un an. Spoiler, ce sont les trois seuls mouvements qu'ils ont fait dans tout le marché des agents libres. C'est incompréhensible. Ils ont perdu Pollard aussi, j'ai oublié d'en parler. Enfin, ils ont vraiment perdu beaucoup de joueurs et ils sont pas pressés. Ils ne font rien. C'est incompréhensible.
Je suis en train de réaliser que tu parlais des Eagles et tout ça. Moi, je suis là pour vous servir. J'avais complètement oublié que j'avais des vainqueurs aussi. J'avais mis les Eagles.
Ouais, bah, ah bah, parle-en après, hein, ça me fera plaisir.
N'hésite pas.
Voilà. Non, mais en fait, pour moi, les vainqueurs, c'était les gros en général. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est encore sur une intersaison où les bons deviennent meilleurs et les moins bons continuent de se déplumer. Généralement, c'est souvent la trade deadline que ça fait cet effet-là. Mais j'ai l'impression que là, c'est un peu pareil en dehors des Falcons qui ont fait un bon move, en effet. Raphaël, ton perdant.
Écoute, j'ai deux équipes moi qui me titillent un peu en perdant pour le moment. J'ai Denver. Ils ont quand même perdu des. Alors, Russell Wilson n'était peut-être pas le quarterback attendu. Néanmoins, pour le moment, c'est Jared Stidham qui doit lancer à sa place. Donc, je sens quand même une certaine perte de niveau. Ils ont perdu un très bon centre. Ils ont perdu un joueur important comme Justin Simmons dans le backfield défensif. Et surtout, il n'y a aucun renfort. Pour le moment, il n'y a aucun renfort du côté de Denver. Alors, on va laisser le bénéfice du doute à Sean Payton, hein, mais pour moi, Denver était déjà une équipe pas très bonne l'an dernier, qui sort encore plus affaiblie de cette free agency, donc je vois ça perdant. Et sur le côté, les gros qui se renforcent pas alors que d'autres gros se renforcent beaucoup, je suis personnellement un peu inquiet par Buffalo. Alors, tant qu'il y a Josh Allen, c'est fort et ça sera fort, pas de doute. Mais attention Buffalo, hein, dans la course à l'armement en AFC, c'est quoi les renforts de Buffalo, hein, Curtis Samuel, mais... T'es quand même un joueur à courant alternatif. T'as eu beaucoup de départs dans le backfield défensif de les Tre'Davious White, les Jordan Poyer, des joueurs quand même d'expérience. Bon, je trouve que côté Buffalo, ça stagne un peu. Ils ont intérêt à très bien drafter, à mon sens.
Très bien. Et ben écoutez, moi j'avais les Patriots parce qu'ils continuent de pas faire grand chose. Ils me dépriment un peu. Je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, je suis très dur parce que en vrai, ils sont sur une reconstruction qui va plus passer par la draft, ils ont un nouveau coach, etc. Et je vois pas qui t'allait signer, mais je comprends toujours pas trop pourquoi donner autant d'argent à Hunter Henry, pourquoi faire revenir Jalen Reagor, pourquoi je. Il y a certains trucs que je trouve. Je sais pas. Je sais que c'est bien parce que Jacoby Brissett, s'il va faire du babysitting, mais de les voir toujours faire revenir des anciens joueurs aussi, enfin bref, c'est. Ça ne m'enthousiasme pas énormément. Voilà donc pour cette free agency. Des choses à rajouter, messieurs, qu'on aurait un petit peu oublié. Est-ce que vous avez une petite équipe dont vous auriez aimé parler, une déception supplémentaire?
Non, moi, je vais juste relancer 10 secondes sur un truc que tu as dit, où tu as dit les vainqueurs se sont renforcés. Je me demande si la hausse qui va être énorme pendant 10 ans du cap tous les ans ne risque pas de créer des super teams en mode NBA, même s'il n'y a pas la luxury tax, certes. Mais je suis en train de me demander si, à force de voir le cap monter si vite, si haut tout le temps, on risque
ça te
pas
donne plus de marge quand t'es très
ouais,
bon,
ouais. Qu'on risque pas d'arriver dans une ère des super teams. J'espère pas, mais c'est une
j'allais dire
crainte.
En tout cas on te le souhaite pas.
Non, on ne souhaite pas, mais c'est une petite crainte que j'ai. Ouais, je la partage avec vous.
Ouais, ouais. Après, ça voudrait dire qu'il faut compter sur les agents pour être raisonnable et pas demander le maximum qui bloque le salary cap à chaque fois, parce que le salary cap il augmente, ça veut dire que les agents demandent plus. Hein.
Oui, certes, mais enfin, tu vois quand même que entre, je suis désolé, mais il y a des joueurs de niveau équivalent qui sont payés beaucoup plus cher par des équipes nulles que par des équipes bonnes. Mais...
C'est vrai aussi. Bon, après, il y a toujours eu aussi un peu une prime.
Oui, 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 mais j'ai peur que ça se, avec toute cette marge financière qui se développe tous les ans, je sais pas.
En tout cas, on espère que ça n'arrivera pas, évidemment. Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je t'ai vu.
Non, j'allais faire une blague, une aparté sur Aaron Rodgers, mais il n'y a jamais rien eu de sérieux sur Rodgers, donc voilà, c'est pas grave.
Ah, sur quoi? Sur les... Ah oui, les négations. Bon, il ne sera pas candidat à la présidentielle, on n'en a jamais
et
parlé
ça,
sur le...
c'est bien dommage, on aurait pu en faire un super podcast.
C'est vrai, mais t'as vu que je me suis évité d'en parler sur le site tant que ce n'était pas officiel. Je me suis dit, on ne fait pas les rumeurs, on l'annoncera que s'il est vraiment vice. Donc candidat à la vice-présidence du coup. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une rumeur qui a tourné la semaine dernière comme quoi Aaron Rodgers pourrait être le vice-président, en tout cas le
sur
numéro 2 sur le
ouais,
ticket, voilà. Comment il s'appelle, c'était un
Kennedy.
Des Kennedy,
c'est un Kennedy, ouais.
Je sais plus lequel des Kennedy du coup.
Ouais, un Robert Kennedy.
Voilà, il s'appelle sûrement Robert ou Ted ou Dick. En tout cas, il était dans les rumeurs, c'est un candidat indépendant donc qui a quand même très peu de chances de gagner hein, de toute façon. Donc ça aurait été le troisième homme de la l'élection américaine et donc Aaron Rodgers était dans les petits papiers. J'ai vu qu'à un moment ça se joue entre lui et un catcheur. Hein. C'est là, c'est pour vous situer un peu où on en est dans le camp Kennedy. Et finalement, c'est pas. Je crois que c'est quelqu'un d'autre.
C'est un Shannon.
Oui, c'est une Shannon.
Ah oui, c'est une femme qui s'appelle Shannon. Oui, on reste dans le football américain.
Donc Shannon, c'est décidément pas un nom de famille que Rodgers aime beaucoup apparemment.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on se serait bien marré avec Aaron Rodgers qui fait campagne. Je sais pas s'il aurait pu faire des meetings, tu sais, à la mi-temps.
Ouais,
ou
voilà.
Quelque chose comme ça. Ça aurait été fun, mais bon, malheureusement, non, nous n'aurons pas le droit à ça. C'est la fin de l'épisode 742 du podcast Jean Actu. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. On vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il y a des petites nouveautés qui vont arriver là pour la draft, mais vous pouvez aussi toujours mettre 1 € ou 2 par mois. C'est toujours apprécié, ça fait un petit fond et c'est toujours top pour nous soutenir. On rappelle que la cagnotte, elle va aux rédacteurs et aux gens qui enregistrent le podcast. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup à tous. Merci messieurs, à très bientôt. Victor, on te retrouve bientôt pour la draft.
Exactement, dans quelques jours pour parler de l'incroyable position de safety.
Voilà, et nous avec Raphaël, on surgit de temps en temps quand il y a de l'actu, il n'y a pas de programme. Bon, c'est comme ça. Merci beaucoup à tous, merci messieurs, et merci à vous de nous écouter. À très bientôt sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.